France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
À la recherche du temps perdu, l'Europe aussi se met en quête d'une nouvelle impulsion. Une tournée européenne pour relancer l'Union avec ou sans le Royaume-Uni. Hier matin, François Hollande était en Irlande après Lisbonne. Hier soir, à Paris, où il a accueilli la nouvelle Premier ministre britannique, Theresa May. « Je suis ferme, mais je temporise », voilà en substance le message que le chef de l'État français a tenu à délivrer. Pendant ce temps, le Brexit, lui, avance lentement mais sûrement. Un mois après son référendum, Londres s'est choisi une équipe de combat pour négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et dans les capitales européennes, on sent bien que le choix du Royaume-Uni de quitter l'Europe infléchit déjà l'équilibre des puissances européennes. Londres, Rome, Paris, Berlin, chacun tenterait pour l'heure de tirer un peu son épingle du jeu. Pour en parler, l'économiste donc Vincent Vicard, enseignant à Paris Dauphine, spécialiste du commerce international et de l'intégration économique, et le politiste Christian Lequen, professeur à Sciences Po, directeur de recherche au CERI, spécialiste de l'Union européenne et de politique étrangère. Vous travaillez, Christian Lequen, actuellement sur une étude ethnographique des diplomates français pour un livre à paraître bientôt. C'est suffisamment original pour être souligné. Toute cette semaine, Christian Lequen, en mini-tournée européenne, François Hollande a volé au secours des petits. Objectif, tenter de les rassurer pour empêcher quoi ? Une désintégration par le bas de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que le Brexit, c'est une chance pour la France de reprendre pied, de reprendre une place qu'elle a perdue progressivement au sein de l'Union européenne ?
Alors, tout d'abord, sur la tournée de François Hollande, je trouve que c'est une très bonne chose d'aller voir les pays qui ne sont pas forcément les grands pays. Parce que je trouve que la diplomatie française a eu, et a souvent, par réflexe, tendance à négliger les pays qui ne sont pas les grands pays.
C'est pas le cas de toutes les diplomaties, ça ?
C'est pas le cas de toutes les diplomaties. Mais voilà, mais en France, comme on a une représentation quand même de notre diplomatie qui est celle d'un grand, on a tendance parfois à négliger un peu les petits.
Donc, juste à noter que François Hollande devait aussi aller en Europe centrale, hein, République tchèque, Slovaquie, Autriche.
Tout à fait.
Déplacements ont été annulés suite à l'attentat de Nice.
Absolument.
Mais oui. Cette mini-tournée vise aussi à préparer le sommet de Bratislava du 16 septembre prochain.
Et donc, il est allé en Irlande, comme vous l'avez dit. Il est allé au Portugal également. Maintenant, pour ce qui est de la place de la France. Bon, il va de soi que la France va être un partenaire majeur dans la négociation du nouveau statut britannique, ça c'est absolument certain, mais la question c'est de savoir si justement la France va profiter du Brexit pour essayer aussi de mettre sur la table quelques propositions permettant de réorganiser de manière plus générale les institutions européennes. Et là, évidemment, je crois qu'à Paris, il y a une tentation de le faire et en même temps, il y a un obstacle. L'obstacle, c'est l'élection présidentielle de 2017 et il va de soi que le fait qu'il y ait également des élections en Allemagne au mois de septembre 2017, puisqu'on va renouveler le Parlement, le Bundestag, pousse plutôt pour une attente, mais j'espère que on ne tardera pas quand même à penser un peu à des options. Voilà, ça qui me paraît.
En même temps, justement, à un an de la présidentielle, on sait que le gouvernement français et François Hollande n'impulsera pas, puisque c'est le mot du jour, de gros dossiers sur le plan en termes de politique interne, hein, sur les questions économiques et sociales. Il n'y aura pas de grandes réformes qui vont être faites dans cette prochaine année. Donc, c'est peut-être justement l'occasion pour lui, le moment d'essayer de se définir, de se tailler un vrai costard européen, ce qu'il prévoyait de faire en 2012 et qu'il a eu bien du mal à faire ces quatre dernières années, non ?
Absolument, et je pense que ceci n'est faisable que s'il y a un véritable accord avec l'Allemagne. Je disais tout à l'heure que l'ensemble des pays comptent, ça va de soi, mais il y a aussi des questions de leadership pour que une réforme puisse être véritablement impulsée. Et là, il faut qu'il y ait un rapprochement réel avec Berlin, ce qui veut dire que les deux capitales doivent mettre de l'eau dans leur vin, en particulier sur la question de l'union économique et monétaire.
Et alors, c'est là que le bas semble quand même blessé quelque part, parce que Theresa May était en visite à Berlin mercredi, après Paris hier, donc, pour rencontrer Angela Merkel avant-hier. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elle est en train, ce que certains soupçonnent, de jouer sur cette rivalité franco-allemande, sur le dossier du Brexit ? On a entendu, depuis un mois, les différences s'exprimer entre François Hollande et Angela Merkel, là où le couple franco-allemand devrait être moteur, non ?
Oui, ça fait partie du jeu de négociation classique, d'aller voir les différentes capitales et d'essayer d'identifier éventuellement des contradictions. Non, je pense que il y a quand même une petite différence, c'est vrai, de perception du traitement du dossier britannique par Paris et par Berlin. Berlin, et on l'a bien senti dans les propos de Madame Merkel, souhaite vraiment laisser du temps à Madame May et au gouvernement britannique, tout simplement parce que les intérêts sont importants, notamment les intérêts commerciaux. Je veux dire, la Grande-Bretagne est le troisième partenaire commercial de l'Allemagne. À Paris, malgré le discours de Monsieur Hollande sur le fait qu'il faut également laisser du temps, on sent qu'on est quand même un peu plus pressé. Et à mon avis, on est un peu plus pressé aussi parce que on craint que lors de l'échéance présidentielle, l'extrême droite se saisisse aussi beaucoup de ce dossier pour essayer d'avoir un discours de contestation très 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 fort. Je pense que la contrainte de politique intérieure sur la question européenne, dans le fond, pèse plus à Paris qu'elle ne pèse pour les élections au Bundestag en septembre 2017, malgré aussi en Allemagne la montée d'un parti eurosceptique AfD.
D'où donc en France notamment ce sentiment d'urgence presque absolue qui semble animer François Hollande depuis le référendum britannique. Un mot de ce qui se passe ou de ce qui se trame du côté de la Grande-Bretagne. Quels sont les engagements de la nouvelle Première ministre Theresa May auprès des Brexiteurs concernant la sortie du pays de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'elle va tenter de négocier?
Alors, d'abord, Monsieur Cameron n'a laissé aucun plan, et le Parlement britannique hier l'a critiqué très violemment, la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des communes. Ce qui veut dire que Monsieur Cameron était quasiment convaincu qu'il allait gagner son référendum. Alors, Madame May, donc, doit en quelque sorte tout inventer pour ce qui est de la mise en œuvre. À mon avis, la position britannique sera une position de négociation assez stricte. Les Britanniques sont des bons négociateurs, ils ont une vraie tradition de diplomatie, et ce qu'ils voudront, c'est un statut ad hoc. Ils voudront un statut particulier, et on le sent bien, c'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est de garder le marché intérieur sans avoir la libre circulation des personnes, ce qui serait tout à fait inédit. C'est là où le fait de réfléchir plus généralement sur la réforme des institutions européennes, à mon avis, est important, parce que simplement accorder un statut ad hoc à la Grande-Bretagne, c'est la solution de facilité. Si on dit non, écoutez, on réorganise, et puis il y a deux cercles dans l'Union européenne, il y a un cercle qui est plutôt le marché intérieur, et puis un autre cercle qui est plutôt un noyau dur, et là les Britanniques, vous serez dans le premier cercle, avec d'autres d'ailleurs, ça peut avoir beaucoup de sens. J'espère que l'on profitera de ce débat sur la négociation britannique pour aller au-delà et penser à une réforme plus générale des institutions européennes, que tout le monde appelle de ses voeux d'ailleurs.
Ouais. Ça, c'est sur le plan politique, ce que vient de nous décrire Christian Le Ken. Et d'un point de vue économique, je me tourne vers vous, l'économiste Vincent Vicard, c'est évidemment le nœud de la guerre aussi, qui est en train de se jouer ou qui va se mener. La place à la fois de la City à l'avenir dans cet espace européen. Et puis surtout la question des retombées. Il faut que le Royaume-Uni, ou en tout cas ses acteurs économiques, ne soient pas trop victimes de cette décision. Alors comment vont se passer les négociations sur ce plan-là?
Alors, très clairement, l'impact du Brexit qu'on va voir à long terme, c'est-à-dire à partir du moment où il prendra vraiment place après la négociation, va beaucoup dépendre de la solution qui est négociée. Alors, il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés. Le scénario qui était envisagé initialement, qui est l'appartenance à l'espace économique européen, type de la Norvège, où la Norvège a un accès au marché unique, semble plutôt s'éloigner, d'après les dernières propositions, les dernières déclarations de David Davis, qui est en charge du Brexit du côté du gouvernement britannique. Donc on s'achemine plutôt vers un système à la carte qui correspondrait à une situation plus proche soit éventuellement de la Suisse, soit de pays comme le Canada. Et donc plus on s'éloigne de ce système d'accès au marché unique, plus ça va être coûteux pour les entreprises britanniques d'accéder au marché européen.
La Suisse par exemple, qui est très heureuse comme elle est aujourd'hui, hein, qui ne souhaite pas du tout adhérer ni à l'Union européenne, ni évidemment à la zone euro, c'est-à-dire qu'on peut avoir des accords à un moment bilatéraux entre l'Union européenne et des pays comme la Suisse et demain probablement la Grande-Bretagne, qui soient tout bénef d'un côté pour ce pays qui deviendrait presque pays tiers, hein, Christian Lequen, non, vous êtes pas d'accord?
Tout bénef, oui, sauf que vous ne participez pas à la décision. C'est quand même un point important. C'est-à-dire que la Suisse actuellement applique l'essentiel de la législation européenne sur le marché intérieur, les standards, les normes, mais ne participe pas à l'élaboration de ces normes puisqu'elle n'est pas membre de l'Union européenne. Et c'est précisément, à mon avis, ce que les Britanniques ne souhaitent pas pour l'avenir. Donc c'est là-dessus aussi qui vont être un peu durs dans la négociation. Le problème de l'accès à la décision.
Juste un mot sur les... Oui, pardon.
Et par ailleurs, il y a aussi, dans le cas de la Suisse, il y a cette question de la libre circulation des travailleurs, qui est une question fondamentale dans le vote sur le Brexit. Et Theresa May a annoncé qu'effectivement, elle envisageait de mettre des limites à la libre circulation des travailleurs dans l'avenir. En tout cas, c'est son point de départ dans la négociation. Et du côté de l'Union européenne, c'est un des principes fondamentaux du marché unique. Donc c'est difficile de dissocier complètement les deux questions. À partir du moment où il y a un accès au marché unique, et ça a bien été rappelé et par Angela Merkel et par François Hollande, que l'accès au marché unique implique cette libre circulation des travailleurs.
Cette semaine, Vincent Vicard, le FMI a revu à la baisse ses perspectives de croissance mondiale, et ce en raison du Brexit, le Fonds monétaire international qui souligne, comme depuis 4 semaines, les incertitudes liées à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors ça, c'est des prévisions qui sont assez court-termistes. Si on regarde à plus long terme, quel peut être l'impact de ce Brexit sur l'économie britannique?
Alors très clairement, là, effectivement,
les
prévisions du FMI, c'est vraiment un impact sur l'année 2016 et l'année 2017, qui est d'ailleurs important dans le cas du Royaume-Uni, mais pas si important au niveau mondial, et qui est lié vraiment à l'incertitude sur la décision, pas à la décision du Brexit qui n'a pas encore eu lieu. Donc sur le plus long terme, on a des estimations qui étaient très très différentes en amont du référendum, notamment faites par le Trésor britannique et un certain nombre d'agences, notamment l'OCDE et des universitaires, qui étaient très différentes. Globalement, en tout cas, nous, ce qu'on peut en dire, c'est que il y a un coût économique, c'est certain, il y a un coût économique qui dépendra grandement du résultat des négociations, savoir si on a un accès au marché unique ou si on se retrouve dans une situation comme tous les pays tiers, c'est-à-dire qu'on a accès au marché européen comme n'importe quel pays, comme les États-Unis. Pour le Royaume-Uni, ça changerait grandement les choses. En termes d'impact sur le PIB à long terme, les estimations qu'on pourrait donner, c'est un impact de l'ordre de 1 à 2% du PIB, de baisse du PIB par rapport à la situation où il y aurait l'Union européenne à long terme pour le Royaume-Uni. Pour les autres pays de l'Union européenne, c'est un impact beaucoup plus faible. Ça serait 10 fois moins important, sachant que pour le Royaume-Uni, son commerce extérieur, la moitié de son commerce extérieur se fait avec l'Union européenne, alors que dans le cas inverse, pour la France, par exemple, ça représente moins de 10% du commerce extérieur français. Donc on s'attend à un impact beaucoup moins important, de l'ordre de 10 fois moins important pour les pays européens.
Alors pour l'instant, le Brexit a jeté un grain de sable dans la mécanique de la reprise mondiale. Pour Maury Hopfeld, l'économiste en chef du FMI, on voit qu'on est vraiment dans cette période d'attente, hein, où chacun se regarde légèrement de travers, mais essaye de comprendre quel pourrait être l'impact de ce Brexit. De son côté, la Banque Centrale Européenne s'est dit prête à agir pour contrer les répercussions du Brexit sur la zone euro, mais là encore, entend se donner un tout petit peu de temps. Hein, Vincent Vicard, on est toujours dans cette même dynamique. On écoutait tout à l'heure le reportage d'Amélie Perrault avec cette hotline mise en France par Paris. Michel Sapin, qui n'était pas content du tout cette semaine quand il a appris que Londres, qui craint de voir partir ses entreprises suite au Brexit, envisage une baisse drastique de son impôt sur les sociétés pour essayer de garder ses entreprises. Chacun est en train, Christian Lequen, comme ça, d'avancer un tout petit peu ses pions, d'essayer de consolider ses positions.
Oui, parce que c'est une situation tout à fait inédite, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, on n'a pas d'expérience. Aucun État membre n'a jamais demandé à sortir de l'Union européenne. Et on découvre aussi, je pense, alors ça, du côté britannique, c'est tout à fait net, au quotidien, combien c'est difficile, parce que les implications de l'Europe sont présentes dans toutes les politiques publiques nationales, et y compris dans le détail. Donc le diable est dans le détail, véritablement. Hein. Et ça va prendre énormément de temps, mais je crois que c'est d'abord pour les Britanniques que ça sera compliqué. Et je pense que ça explique aussi pourquoi les partis populistes européens qui se sont réjouis de la décision du 23 juin dernier, finalement, on les sent un peu plus sur la réserve aujourd'hui, hein, parce qu'ils se disent ça ne sera peut-être pas si simple que ça pour les Britanniques. Le Front National en France, par exemple, ne parle pas de sortie de l'Union européenne. Hein, même à la limite, le thème de la sortie de l'euro, parce que c'était un thème que Madame Le Pen utilisait très très régulièrement, je ne le sens pas très présent dans le discours du Front National. Aujourd'hui. Donc voilà, c'est effectivement une expérience tout à fait inédite où tout est à inventer.
On a vu aussi ces derniers jours Sadiq Khan, le tout nouveau maire de Londres, là encore se mettre en avant dans une campagne de communication qu'il a lancée sur les réseaux sociaux pour appeler tous les étrangers à venir à Londres, cette campagne des portes ouvertes à Londres. On voit aussi une nouvelle figure émerger avec lui à la gauche, hein, du côté du Labour britannique, du côté des conservateurs. Est-ce que vous pensez, Christian Le Ken, que Theresa May va réussir à imposer son leadership?
En tout cas, l'objectif pour elle, c'est de recomposer le parti, ce qui explique les choix qu'elle a fait, notamment la nomination de Boris Johnson au poste de ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, le Parti conservateur, chaque fois qu'il a été face à une crise, notamment une crise électorale, son réflexe est toujours d'essayer de sauver le parti, de recomposer le parti. La chance, si je puis dire, de Madame May, c'est qu'elle n'a pas face à elle une opposition très structurée. Le parti travailliste, le Labour, est totalement en triste état, totalement divisé. Donc, je pense qu'elle pourra réussir quand même à être cette personne un peu consensuelle au sein des conservateurs pour recomposer le parti, mais elle devra assumer, ça sera la chose difficile, non pas en tant que leader du Parti conservateur, mais en tant que Premier ministre de la Grande-Bretagne, les conséquences concrètes du Brexit.
Y compris avec un Boris Johnson aux affaires étrangères. Elle va réussir à tenir ses troupes.
Écoutez, oui, parce que je pense que Boris Johnson, dans le fond, enfin, c'est toujours difficile de sonder les reins et les cœurs, mais je ne crois pas qu'il soit si eurosceptique par conviction que cela. Il a choisi cette position parce que, d'un point de vue stratégique, il pensait qu'il allait pouvoir ainsi conquérir le leadership du parti. Raté, hein, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Mais je crois qu'il est capable de réalisme aussi en politique, beaucoup plus que ce qu'il laisse apparaître.
Alors un mois après le Brexit, on voit que tous les jeux restent ouverts et que l'agenda s'accélère. Merci beaucoup messieurs, merci Vincent Vicard et merci à vous Christian Le Ken. Juste un rendez-vous à vous indiquer, après le Brexit, quel avenir pour l'influence britannique? Mélanie Chalandoux poursuivra la discussion ce dimanche.